Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h45, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Julien Drey.
Bonjour Julien Drey.
Bonjour.
Vous êtes fait rare dans les médias depuis la victoire de Benoît Hamon à la primaire. Merci d'être avec nous dans ce studio d'RTL ce matin. Benoît Hamon qui, hier à Bercy, face à une salle survoltée, a tenté de réveiller sa campagne. Mission accomplie pour le candidat issu de la primaire.
Enfin, mission accomplie, on verra après, mais en tout cas, c'était nécessaire, parce qu'on sentait bien que les choses n'allaient pas de soi. La salle était pleine, il y avait de la dynamique, il y avait de la jeunesse, il y avait de la ferveur. Donc ça veut dire qu'il bénéficie d'une sorte de relance dans sa campagne électorale et qui peut être utile.
Oui.
Et qui doit être utile, surtout.
Et c'est pas trop tard ?
C'est jamais trop tard, parce qu'on voit bien... Alors, c'est jamais trop tard, parce qu'il y a toujours un combat politique qui se mène, et puis qu'on voit bien que la présidentielle a eu du mal à se mettre en place, au sens d'un combat d'idées, d'un affrontement sur les projets, et que le débat de ce soir va être un élément très important.
Mais alors, la veille à Paris, on avait eu droit à un autre rassemblement, celui de Jean-Luc Mélenchon, qui a fait le plein, lui aussi, place de la République, donc c'était un peu la compétition entre les deux. Mont-Mélenchon, un week-end pour convaincre et essayer de relancer leurs campagnes respectives.
Oui, mais c'est un peu la question qu'on pouvait se poser dimanche soir. Chacun avait réussi son initiative. La manifestation de Mélenchon, il y avait du monde. Le meeting de Benoît Hamon, il y avait du monde. Il y avait de la dynamique. Mais en même temps, on se dit « so what ?» si vous me permettez cette exception à Molière.
Voilà, que vous traduisez par « et
c'est
alors ?»
Ça veut dire « oui, et alors ?» Parce que, je dirais, dans la primaire, il y avait un discours qui se tenait, qui avait une cohérence, c'est de dire « on tourne la page d'une forme d'exercice du pouvoir, c'est une nouvelle génération, on revendique, je dirais, une rupture d'un certain point de vue, et cela va permettre le rassemblement de toute la gauche, et notamment le retour à une union de la gauche comme on l'a connue par le passé. Force est de constater que ça ne s'est pas passé.
Oui, puis de toute façon, il n'y avait pas Mélenchon dans la primaire, voilà, donc de toute façon,
oui,
le verre était dans le fruit au départ.
Mais on pouvait... je dirais, escompter, en tous les cas, c'est ça qui était vendu comme message. On pouvait escompter qu'une campagne politique allait se mener pour ce rassemblement et pour cette unité. Force est de constater qu'on n'y est pas. Voilà. Et que donc, on a deux forces.
Que Benoît Hamon n'a pas réussi à rassembler sa famille.
Et que Mélenchon s'est enfermé dans son sectarisme, si vous me permettez cette expression, sans vouloir porter atteinte à sa dignité.
Ça, c'est
il est très sensible à ces expressions. Voilà. Donc, il faut faire attention, parce que cette vision de la gauche, on le voit bien, elle peut conduire, si elle se poursuit, et si en tous les cas, les choses ne sont pas posées dans ces termes là, à ce que dans les derniers jours, il y a une sorte de vote utile pour faire barrage au Front National et qui est peut-être un vote par défaut.
Voilà. Donc la gauche, avec cette double démonstration du week-end, touche à l'absurde, effectivement. Parce que si elle reste dans l'État, si on a ces deux candidats qui ne bougent pas, et Albin Montura nous disait tout à l'heure que 12 et 12, ce sont leurs scores respectifs dans les sondages, ça ne fait pas 24, eh bien la gauche a perdu.
Si, 12 et 12, ça fait 24. En tout cas, ça peut faire 24.
Alors, à quelles conditions ?
Voilà, donc c'est pour ça que je pense que maintenant, on est dans une phase nouvelle de la campagne et que dès ce soir, le débat va le montrer. Et moi... Bon, je vous l'avais dit tout à l'heure en entrée, j'ai été très discret parce que je pense qu'il faut respecter les paroles qui ont été données, les engagements qui ont été pris. Donc il y a une décision qui a été prise, il y a un vote. Il ne s'agit pas de faire la cinquième colonne ou de faire des croche-pieds. Bon, donc il faut laisser ceux qui sont en place et qui ont été désignés mener leur campagne. Mais en même temps, il y a aussi des conditions maintenant à respecter. Et j'en vois, si vous me permettez, il y a quatre éléments nécessaires.
Alors là, on parle
dans cette campagne.
De la campagne de Benoît Hamon pour qu'il réussisse à faire ce qu'il n'a pas encore réussi, c'est-à-dire rassembler notamment.
La première, c'est que il y a un combat frontal à mener aujourd'hui contre la droite et contre l'extrême droite. Et je fais exprès de les mettre sur le même plan. Parce que je considère que la manière dont la droite républicaine a accepté la candidature de François Fillon est une insulte à la République. Je respecte la présomption d'innocence, je ne veux pas porter de jugement sur les affaires. Mais on voit bien qu'on a pris en otage cette campagne électorale et qu'on rend un très mauvais service à la République en faisant ça. Voilà. Et il y a une responsabilité de chaque famille politique par rapport à ça. Et donc, nous devons le dire.
Donc, être plus offensif.
Nous, les socialistes, pourquoi ? Parce que nous sommes le parti central de la gauche et que c'est notre responsabilité, y compris d'interpeller la droite républicaine et de lui dire qu'elle n'est pas responsable dans le respect de la République. Ça, c'est la première chose. Et, deuxièmement, parce que tout le monde le sent, il y a une extrême droite qu'il ne faut pas oublier ou qu'il ne faut pas banaliser. Donc, il y a un combat frontal à mener. Ça, c'est la première chose. Et je crois qu'il faut le faire. Il ne faut pas considérer que tout ça, c'est normal et que finalement, ça passe. La deuxième, c'est que, et on l'a vu, les corrections ont commencé à être apportées, et je m'en félicite. Il faut être capable, quand on est désigné candidat, de considérer qu'on a certes des droits, mais qu'on a aussi beaucoup de devoirs. Devoirs à l'égard de tous ceux qui n'ont pas voté pour vous. Devoir de rassembler sa famille. Devoir de défendre une certaine fierté de
par
cette famille-là.
Par exemple, crier à la trahison quand un candidat pas qualifié ne vous parraine pas, ça fait partie des petits écarts de conduite.
Je pense que ça ne sert à rien quand des gens expriment des problèmes politiques. Alors après, on peut penser que ce n'est pas le bon tempo, tout ce que vous voulez. Mais simplement de revendiquer l'autorité. Il faut sentir qu'il y a donc un problème politique. Parce que si ça prend de la place, c'est qu'il y a un sentiment qui est exprimé par un certain nombre de gens qui ne se ressentent pas dans la dynamique de la campagne.
On a même dit, certains disent même que Benoît Hamon peut être sectaire.
Je n'emploie pas ces termes. Moi, je veux pas. Je dis simplement, il faut être capable de rassembler. Et dans ce rassemblement, la fierté d'avoir exercé le pouvoir doit être revendiquée. Et revendiquée par la famille
donc
socialiste.
Moins d'appel à la discipline, un petit peu comme ça, autoritaire de Benoît Hamon.
Oui, voilà. Moins de comportement caporaliste et plus de réponses politiques.
C'était la deuxième condition.
La troisième, c'est qu'il faut. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec le pacte de non-agression à l'égard de Jean-Luc Mélenchon. Je ne suis pas pour la dispute, mais je considère qu'il y a une...
Mais ils en ont passé un formellement ?
Formellement, oui, puisqu'on le ménage. Moi, je considère qu'aujourd'hui, comme vous le dites, il faut interpeller toute la gauche en disant les choses sont simples. 12 plus 12, ça peut faire 24 et ça peut faire même plus, parce que si la gauche est rassemblée, c'est une dynamique nouvelle.
En tapant sur Mélenchon ?
Non, mais pas en tapant, en mettant, parce que le problème, c'est pas de taper. Le problème, c'est de mettre Jean-Luc Mélenchon devant sa responsabilité. Qu'est-ce qu'il veut ? Et je vais vous prendre un exemple.
Et qu'est-ce qu'il veut ?
Je vais vous prendre un exemple, si vous me permettez, si je vais faire jouer mon âge. Quand François Mitterrand est confronté à une division organisée par la direction communiste en 1978. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne reprend pas les positions du Parti communiste. Et il y avait d'ailleurs un certain nombre de socialistes qui, à l'époque, lui disaient « mais quand même, il faut faire des signes ». Il affronte le Parti communiste. Et c'est parce qu'il affronte le Parti communiste qu'en 1980, les électeurs communistes choisissent François Mitterrand. Eh bien, nous sommes dans la même situation aujourd'hui. Benoît Hamon et toute son équipe doivent dire clairement à Jean-Luc Mélenchon, non pas simplement on te ménage, parce que effectivement maintenant il y a une majesté Mélenchon. Vous m'excusez cette expression. Il y a une majesté, il y a une théâtralité, est formidable.
Et
il a un talent excellent.
C'est l'homme qu'on respecte ou c'est la perspective de pouvoir constituer au-delà de la présidentielle
au-delà de la présidentielle, vous savez, la question qui est posée aujourd'hui, c'est que la gauche, elle soit pas humiliée dans cette élection et qu'elle représente à nouveau une force alternative.
Mais soyez plus descriptif, vous dites. Il faut arrêter de ménager.
Ça veut dire qu'il faut l'interpeller en lui disant quelle est la responsabilité qu'il veut prendre dans cette élection. Et il faut interpeller ses électeurs en leur disant « Est-ce que vous voulez que la gauche soit qualifiée au deuxième tour ou est-ce que vous voulez qu'elle soit disqualifiée ?»
Alors, c'est que Jean-Luc Mélenchon ne va pas renoncer à la présidentielle parce que Benoît Hamon l'interpelle.
Mais Georges Marchais non plus n'a pas renoncé. Mais les électeurs, ce n'est pas la même chose. Et donc, le débat, il doit avoir lieu. Il doit avoir lieu sur le fond, parce que moi, je veux bien qu'on me parle des limites de l'humanité, de ce que vous voulez. Tout ça est formidable. Mais à un moment donné, il y a une réalité, c'est le vote. Et la quatrième condition auquel je crois il faut faire très attention, c'est que moi je ne considère pas que l'adversaire principal dans le moment qui vient, ce soit Emmanuel Macron. J'ai divergence avec Emmanuel Macron, je ne suis pas d'accord avec son programme.
Parce que Benoît Hamon a tapé comme un sourd sur Emmanuel Macron.
Je suis socialiste, mais je considère que la gauche, c'est le rassemblement. Et moi, j'ai aussi une leçon de François Mitterrand. François Mitterrand nous disait toujours « je hais le sectarisme ». Donc soyez toujours en capacité de rassembler, de tendre la main. Je l'ai dit dès qu'Emmanuel Macron a pris des responsabilités. Je dis le rôle de la gauche, c'est de le réancrer dans une majorité. C'est pas le laisser partir. Et c'est donc pas de jeter des anathèmes.
Donc demandez à Hamon, par exemple, de ce soir dans le débat, de ne plus invoquer l'argent de Macron, de ne plus lui demander dire qui sont ses donateurs, de ne plus taper sur son programme scolaire. Vous lui demandez ce virage-là ?
Non, je lui demande simplement de s'affronter à la droite, à l'extrême droite, et de le faire clairement en montrant ce que c'est que la gauche, ses propositions.
Et d'épargner Emmanuel Macron et d'arrêter de ménager Jean-Luc Mélenchon. C'est ça la feuille de route.
Et de ne pas considérer qu'Emmanuel Macron est le pire adversaire dans cette campagne.
Il ne reste que très peu de temps. Vous demandez à Benoît Hamon donc ses conditions.
Ses conditions, non, c'est mes remarques. Moi,
vos remarques pour qu'il ait en 15 jours la possibilité de rassembler à gauche, sinon quoi ?
Sinon, je pense qu'à ce moment-là, le risque, pas moi, le risque, c'est qu'un certain nombre de gens se disent, y compris de gauche, il faut voter utile, il faut faire rempart, il faut voter par défaut. Et à ce moment-là, ils regarderont les sondages, ils verront celui qui est le plus à même de le faire.
Donc Emmanuel Macron
ça,
à ce stade.
Tout ça, si vous me permettez, il y a un élément très important dans cette campagne électorale, les oubliés de cette campagne, c'est les quartiers populaires. Or, ce qui a fait la force de la campagne de Ségolène Royal, comme de François Hollande, c'est qu'on a été dans les quartiers populaires. On a été parlé à cette jeunesse des quartiers populaires. On lui a donné le sentiment qu'elle devait être un acteur de la société française. Donc, il ne faut pas l'oublier.
Vous parlez de François Hollande, enfin, vous parlez de François Mitterrand. On va parler de François Hollande. Il ne regarde pas le débat, d'ailleurs, ce soir.
Je crois qu'il est le japonais.
Voilà, exactement. C'est peut-être une excuse qui l'intéresse. Il regarde cette campagne avec distance.
Je ne suis pas son porte-parole, mais bon, comme vous avez noté mes liens d'amitié à l'égard du président de la République, oui, il la regarde, mais il la regarde avec beaucoup d'inquiétude. Et d'ailleurs, bon, il fait campagne à sa manière, puisqu'il est là sans arrêt, sur le terrain. Personne peut-être le note, mais moi je le note, et ceux qui sont sur le terrain le notent, et des fois avec de regret et de nostalgie.
Oui.
Mais il est acteur de cette bataille, parce qu'il prend le pays à témoin des risques qui
existent. Il n'est pas malheureux d'observer ce qui se passe pour son camp.
Le caractère de François Hollande, ce n'est pas d'être dans le passé, c'est toujours d'être dans l'avenir, de se projeter.
Il n'est pas un peu inquiet?
Il est inquiet comme nous tous, parce qu'il sent bien la montée et la pression de l'extrême droite, de ses thèmes, et la difficulté de la gauche à être en capacité de se rassembler et d'affronter ces défis.
Est-ce qu'il se prononcera avant le premier tour?
Ça, vous lui poserez la question, mais...
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il doit le faire?
Moi, je pense que le président de la République, par fonction, il est le gardien d'un certain nombre de choses, donc on verra en fonction des risques, enfin, c'est lui qui l'appréciera, en fonction des risques dans les derniers jours, parce que... Je le dis, je suis d'accord avec un certain nombre d'observateurs, le risque d'une victoire du Front National n'est plus désormais à écarter.
Merci Julien Dray d'avoir été notre invité ce matin dans le studio d'RTL.
Sur la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon s'est enfermé dans son sectarisme et concernant la campagne de Benoît Hamon, quand on a été désigné, on a des droits mais aussi des devoirs, vient de nous dire à l'instant même Julien Dray, dont celui de défendre un bilan et d'interpeller Jean-Luc Mélenchon lui-même. L'entretien est à réécouter dans son intégralité sur le site rtl.fr.